إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. On continue donc aujourd'hui l'étude de cette épître intitulée « Ce que tout musulman et musulmane doivent obligatoirement connaître ». On a vu lors de notre cours de la semaine passée les trois fondements que tout musulman et musulmane doivent apprendre, qui sont la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de la religion de l'islam et la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu ces trois fondements de manière concise et résumée, et quiconque souhaite les étudier de manière plus développée peut revenir aux enregistrements des cours donnés sur l'explication des trois fondements de l'auteur, le Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, dans lequel il a développé chacun de ces fondements avec leurs preuves. Ensuite, il dit rahimahullah ta'ala, aslu d-dini wa qa'idatuhu, le fondement de la religion et sa base. Le fondement, al-asl, on a vu dans le cours passé ce que cela désigne, que c'est la base d'une chose, sa fondation, ce sur quoi on va construire le reste. Et al-qa'ida, que l'on traduit parfois par la règle ou la base, cela a un sens proche du mot asl. Donc ici le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il a voulu insister sur le sens et nous montrer que le fondement de la religion, la base de la religion, ce sur quoi tu vas construire et baser l'ensemble de tes œuvres, et ce sans quoi aucune de tes œuvres et aucune de tes paroles ne peuvent être valides, ce sont deux choses. Il dit, rahimahullah, aslu d-din wa qa'idatuhu amran. Le fondement de la religion et sa base sont deux choses. Et ensuite, il va nous informer au sujet de ces deux choses, et on va voir, à travers la lecture de ces paroles, que ces deux choses ne sont autres que le sens de la parole de l'ikhlas, la parole du kilt exclusif, la parole du tawhid, la ilaha illallah, celle pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'adorent exclusivement, en dehors de tout autre que moi, pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Donc il commence et il dit, rahimahullah, al-awwal, le premier, al-amru bi'ibadati Allahi wahdahu la sharika lah, l'ordre d'adorer Allah seul, sans associé. C'est-à-dire que toutes tes adorations, tu dois les vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne dois adorer nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ensemble des adorations doivent être vouées à Allah seul sans associé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné, et comme il l'a décrété, comme il dit subhanahu wa ta'ala dans son livre, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Et ton Seigneur a décrété, c'est-à-dire il a ordonné, il a enjoint, que vous n'adoriez personne. Ceci est le sens de la ilah, c'est que tu n'adores personne, illa iyyah, sauf Allah, sauf lui, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le sens donc de illallah. On voit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné cela dans son livre. Il l'a enjoint à l'ensemble de ses serviteurs. Et il a même envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement et de n'adorer nul autre que lui. Il a dit subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager. Pour leur dire quoi? Pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du taghout. Écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écartez-vous du polythéisme et vouez l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, il est resté pendant 10 années à Mecca à appeler les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et ce avant même que ne lui soit prescrite la prière ainsi que les autres ordres de la législation. Tout ceci, mes frères, cela nous prouve que le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bel et bien la base et le fondement de la religion. Quant aux autres prescriptions de la religion, elles dépendent de ce fondement et de cette base. C'est-à-dire que si ce fondement disparaît, que la personne ne voue pas un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle accomplit l'ensemble des autres prescriptions de la religion, toutes ses œuvres, elles seront vaines. Pourquoi? Car il n'a pas bâti ses œuvres sur une base et des fondations saines. Donc le musulman, il se doit de donner une grande importance à cela et prendre conscience que la base de sa religion est le fait qu'il voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que tu sais cela, tu sais alors l'importance de cette science, l'importance du tawhid, l'importance d'étudier sans cesse la science du tawhid, afin de comprendre son sens, afin de pouvoir le mettre en pratique comme il se doit, de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc le tawhid, comme on a dit, il consiste à vouer l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc important pour nous de savoir qu'est-ce que signifie l'adoration. En arabe, le mot al-ibada, on traduit donc par adoration, il désigne l'asservissement, la soumission et l'avilissement. Et dans la législation, les gens de science l'ont défini comme étant un nom général qui englobe tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée comme parole et acte apparent et caché. C'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte apparent et caché. Donc en arabe, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina. Tout acte et parole apparent et caché qu'Allah aime et agrée fait partie de l'adoration. À l'exemple de la prière, du jeûne, de l'aumône, du pèlerinage, mais aussi la peur, l'espoir, l'amour, l'invocation, le tawakkul et autres parmi les adorations qui toutes doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Et quiconque voue une seule de ces adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un polythéiste mécréant. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, وَالتَّحْرِيضُ عَلَى ذَلِكَ. Et l'incitation à cela. L'incitation à quoi? L'incitation à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Ceci fait partie de la base et du fondement de la religion. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé, mais également tu incites à cela. Tu encourages les gens à vouer leurs adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses suiveurs, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ. Dis, voici mon chemin. J'appelle quoi? J'appelle à Allah. J'appelle à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu en tant que prêcheur vers les gens du Yémen, qu'est-ce qu'il lui a enjoint? Il lui a dit, tu te rends vers un peuple des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils vouent un culte exclusif à Allah. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum. Donc le croyant monothéiste, il ne doit pas limiter ce bien à sa propre personne, mais il doit également appeler à ce bien. Appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit faire sortir les gens des ténèbres et de l'obscurité, de la mécréance et du polythéisme, et les ramener à la lumière de la foi et du tawhid, la lumière de la foi et du monothéisme, du culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَالْمُوَالَاتُ فِيهِ. Et l'alliance en cela, c'est-à-dire par rapport au tawhid, que tu t'allies en fonction de cela, c'est-à-dire que tu te lies d'amitié, tu soutiens, tu aimes ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Si Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne parmi ses serviteurs, alors tu l'aimes pour Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala prend un de ses serviteurs pour allié, alors tu t'allies à lui pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala sera fort dans ton cœur, plus tu vas pouvoir mettre en pratique les œuvres qui découlent de cela. C'est-à-dire que plus tu vas perfectionner ton tawhid, plus tu vas pouvoir mettre en pratique ce principe de l'alliance et du désaveu. Et plus ton tawhid va s'affaiblir, plus ce principe fondamental de la religion va s'affaiblir chez toi. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, a rapporté dans Al-Musnad, d'après Al-Bara ibn Azib, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lance la plus solide de la foi, et que tu prennes tes alliés pour Allah, et tes ennemis pour Allah. C'est-à-dire que tu choisisses tes alliés ou tes ennemis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu aimes pour Allah, et que tu détestes pour Allah. Et ce hadith a été jugé bon par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Vous voyez donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié ceci comme étant l'anse la plus solide de la foi. On voit donc l'importance de ce fondement immense qui est l'amour à Allah et le fait de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire pour le croyant de s'allier avec les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et également de les aimer, car ceci fait partie des choses qu'implique nécessairement l'attestation que la ilaha illallah. Lorsque tu dis ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, ceci implique nécessairement que tu t'allies avec ceux qui prononcent cette parole et qui la mettent en pratique, et que tu te désavoues de ceux qui ne prononcent pas cette parole et ne la mettent pas en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre, au verset 55 et 56 de sourate Al-Ma'idah, إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager et les croyants. الذين يقيمون الصلاة, ceux qui accomplissent la prière. ويؤتون الزكاة, qui s'acquittent de la zakat. وهم راكعون, et qui s'inclinent devant Allah. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله Humul ghalibun. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, alors il réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Allahu Akbar. Ce verset, mes frères, il nous prouve l'obligation que notre alliance, notre amour, notre soutien, il soit réservé et restreint à qui? À ceux qui sont mentionnés dans ce verset. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager et les croyants. Et cela nous démontre aussi l'obligation de nous désavouer de l'alliance à autre que. Et l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, il a mentionné dans l'explication de ce verset que cela signifie que cela, les croyants, ils auront la fin heureuse ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Il dit, et ceci est une bonne annonce immense pour le croyant. En effet, celui qui accomplit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala au point d'être un des membres du parti d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il doit savoir qu'il sera parmi les victorieux. Même s'il subit certaines défaites ici-bas, même s'il subit certaines épreuves, de par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, la fin heureuse et la victoire et le triomphe, ils seront pour lui par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset, c'est une très bonne annonce pour le croyant. Il dit ensuite, rahimahullah, wa takfir man taraka. Et le takfir, que l'on pourrait traduire par l'excommunication de celui qui la délaisse, c'est-à-dire de considérer comme mécréant celui qui délaisse le tawhid, qui délaisse l'ordre d'adorer Allah seul sans associé. Donc celui qui ne voue pas un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, c'est un mécréant. Il ne fait pas partie des croyants, qui qu'il soit, même s'il passe ses nuits à prier, ses jours à jeûner, qu'il est chaque jour au premier rang à la mosquée, mais qu'il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se prosterne pour autre qu'Allah, qu'il fait des sacrifices pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il commet une de ces formes de polythéisme majeur, alors il ne fait pas partie du nombre des croyants.
Mais c'est un mécréant et il est obligatoire pour le croyant de le considérer comme tel. Pourquoi? Car celui qui ne considère pas mécréant celui qu'il est ou qui doute de sa mécréance, alors il est lui-même mécréant après que la preuve lui soit établie. Et on verra ce sujet plus en détail, inshallah ta'ala, lorsque nous évoquerons les annulatifs de l'islam dans cet ouvrage, inshallah ta'ala. Donc ceci est le premier point que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné comme faisant partie du fondement et de la base de la religion. Il a dit ensuite, rahimahullah, الثاني الانذار عن الشرك في عبادة الله تعالى والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل. Donc la deuxième chose, faisant partie du fondement de la religion et de sa base, c'est l'avertissement contre le shirk, contre l'association dans l'adoration d'Allah. Le faire avec fermeté, l'hostilité en fonction de cela et le takfir de celui qui l'a commis. Il est donc la deuxième chose sur laquelle tu dois bâtir ta religion. C'est l'avertissement, al-inzar, qui désigne la mise en garde sévère et l'interdiction stricte de quoi? De l'association dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car l'association, le shirk, c'est le plus grave des péchés par lequel on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala ont rapporté, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit: j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le péché le plus grave pour Allah subhanahu wa ta'ala? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: c'est que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Ceci est le plus grave des péchés, que tu donnes un égal, un associé à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il t'a créé. On voit donc également dans ce hadith ce que l'on a mentionné dans le cours de la semaine passée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a démontré qu'il fait partie des choses nécessairement impliquées par le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, que tu l'unifies également dans l'adoration. Celui qui reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son seul créateur, il doit alors aussi reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration. Et le shirk, l'association ou le polythéisme, il désigne le fait que tu donnes un égal à Allah dans une chose qui fait partie des spécificités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, c'est de donner un égal à Allah dans une chose qui fait partie des spécificités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un égal à Allah, il a donc commis du shirk, du polythéisme, qui est le plus grave des péchés. Et le shirk, il a différentes catégories, il est de différentes sortes, et on en parlera, inshallah ta'ala, lorsqu'on arrivera au chapitre traitant de ce sujet. Et parmi les choses qui nous montrent la gravité du shirk, la gravité du polythéisme, il y a le fait que le premier verset par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu messager, et le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a adressé, c'est quoi? C'est l'avertissement contre le polythéisme, l'avertissement contre le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Ô toi le revêtu d'un manteau, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lève-toi et avertis. Avertis contre quoi? Avertis contre le shirk, contre le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, mes frères, cela nous prouve que le shirk est la chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir contre quoi? D'avertir contre le polythéisme. Pourtant, ce qui est connu, c'est qu'il y avait d'autres graves péchés qui étaient répandus chez les Arabes à l'époque de la révélation. En effet, parmi les péchés qui étaient commis, il y avait la consommation de l'alcool, le vol, la fornication, le fait de tuer les enfants, d'enterrer les petites filles vivantes, et autres parmi les grands péchés. Malgré cela, la première chose contre laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir les gens, c'est quoi? C'est le polythéisme. Cela nous démontre bien que ceci est la chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite. Il lui a donc ordonné de mettre en garde contre cela. Il est donc indispensable pour celui qui appelle à Allah
subhanahu wa ta'ala de commencer par ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont commencé, car ceci est la chose la plus importante. Ensuite il dit rahimahullah, wa at-taghlidu fi dhalik, et le faire avec fermeté, c'est-à-dire avertir contre le shirk. La personne, elle doit être stricte à ce sujet. Interdire le shirk, mais également interdire toutes les choses qui peuvent mener au polythéisme. Comme le fait, par exemple, de détruire les choses qui pourraient être adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui en a les capacités. Comme le font les gouverneurs. Lorsqu'ils voient que certains vestiges ou certaines choses sont pris pour associer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils les détruisent. Et ceci fait partie des choses essentielles de la religion. Car le shirk, mes frères, c'est la plus grande des injustices. Écoutez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous mentionne la recommandation de Luqman le sage à son fils. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » En effet, c'est une injustice énorme. Et y a-t-il plus grave en termes d'injustice qu'une personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée pour l'adorer, seule sans associer, en lui vouant un culte exclusif, puis que cette personne s'asservisse à une créature comme elle, qui ne peut rien pour elle-même, et encore moins pour autrui. Il n'y a pas de doute que celui qui fait cela a certes commis une grave injustice envers lui-même, et on demande à Allah de nous préserver. Donc le shirk, mes frères, c'est le plus grave des péchés, de manière absolue. Car il consiste à rendre égal la créature qui est faible et déficiente au créateur qui est parfait de tous les points de vue. C'est pour cela que l'ensemble des péchés sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'exception du polythéisme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Il ne pardonne pas le shirk, c'est-à-dire à celui qui meurt sur le shirk sans s'être repenti. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Tous les autres péchés en dehors de la mécréance et du polythéisme, si une personne meurt sans s'en être repenti, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonnera, et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de son péché, puis il entrera au paradis, incha'Allah ta'ala. Alors que le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. Il ne pardonne qu'à celui qui se repent de son vivant. Et ensuite il dit subhanahu wa ta'ala, et quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans son noble livre, innahu man yushrik billah فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Certes, celui qui donne quelconque associé à Allah, Allah lui interdit le paradis. Son refuge sera l'enfer, et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver et de nous faire mourir sur le tawhid et la sunnah. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَالْمُعَادَاتُ فِيهِ, et l'hostilité en fonction de cela, c'est-à-dire en fonction du polythéisme. C'est-à-dire que la personne, elle réprouve pour Allah subhanahu wa ta'ala le polythéisme, mais elle réprouve également les adeptes du polythéisme. Comme on l'a vu la semaine dernière, à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat Al-Mumtahana, lorsqu'il nous dit subhanahu wa ta'ala, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous délaissiez le polythéisme et que votre culte soit voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala.
Il est donc obligatoire pour le musulman de réprouver le polythéisme, mais également de réprouver ses adeptes. Même s'ils font partie de ses proches parents, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Mujadila, « La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasoola. » Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour allié ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Puis après, il a dit quoi? وَلَوْ كَانُوا أَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. Fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Et ce car la foi, elle ne peut pas se réunir dans le cœur d'une personne avec l'amour pour les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas possible pour une personne d'aimer véridiquement Allah subhanahu wa ta'ala et d'aimer véridiquement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et en parallèle de cela aimer ceux qui s'opposent à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie des bases essentielles de notre religion, l'alliance et le désaveu. Et ceci fait partie des principes contre lesquels luttent les ennemis de cette religion. Ils aimeraient que ce principe soit effacé et proscrit des livres d'enseignement de l'islam. En réalité, en faisant cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils favorisent le développement et la diffusion des ambiguïtés et du faux et de l'altération de ce fondement immense, soit vers le laxisme, soit vers l'exagération. En effet, vous en trouverez certains qui se dirigeront vers le laxisme et délaisseront ce point essentiel, ou alors l'altéreront à leur manière et se lieront d'amitié avec ceux qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres qui vont exagérer à ce sujet, au point de faire rentrer dans ce point des choses qui n'en font pas partie. Comme on le voit, chez certaines personnes ignorantes des règles de la religion, qui, prétendant appliquer l'alliance et le désaveu, ont un mauvais comportement et montrent une mauvaise image de leur religion. L'alliance et le désaveu, cela ne signifie pas que si tu as des proches qui ne sont pas croyants, que tu ne sois pas bienfaisant envers eux. Au contraire, l'islam t'appelle à la bienfaisance envers tes proches. Et ceci est un des meilleurs moyens de les appeler à l'islam. Également, l'islam appelle à la bienfaisance et la bonté envers qui? Envers les voisins, même s'ils ne sont pas croyants. Et ceci ne s'oppose en aucun cas à l'alliance et au désaveu en islam. Donc, il faut appliquer ce point sans exagération et sans laxisme. Et ce point-là, je l'ai développé dans un des cours sur l'explication des trois fondements lorsque j'ai mentionné différentes choses qui ne s'opposent pas à l'alliance et au désaveu en islam, qui sont un résumé d'une parole de l'éminent Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, à ce sujet. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa takfiru man fa'ala, et le takfir de celui qui l'a commet, c'est-à-dire qui commet l'association dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a vu précédemment, celui qui fait du polythéisme, il sort par cela de l'islam et ne fait pas partie du nombre des musulmans. Ceci sont donc, mes frères, les deux points que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné comme étant le fondement de la religion et sa base. Et comme on l'a dit, ces deux points, ce sont en réalité le sens et l'explication de la parole du tawhid, la parole par laquelle nous sommes entrés en islam. La ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Tous ces points que l'on a mentionnés dans le cours d'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont nécessairement impliquées par la mise en pratique de cette parole. Et dans le cours prochain, incha'Allah ta'ala, nous verrons les conditions de cette parole, les conditions de la ilaha illallah, ainsi que les preuves à ce sujet. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.